Europe 1.
Il est clair, madame, que nous ne serons d'accord sur rien.
15h, 16h sur Europe 1.
Nous attaquerons la tombée de la nuit.
Historiquement vôtre.
La Santéa.
Molière, il faudra reprendre.
A successor to the kings and queens of history.
On va écouter donc comment on le fait chaque fois, madame Soleil. Le principe, c'est simple. On lui donne votre jour de naissance, votre heure de naissance. On lui dit pas qui vous êtes.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars, des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, oui, je vous raconte une chanteuse, danseuse de cabaret, peintre à 16h et modèle, qui a régné en star dans le Paris des années 20 jusqu'à associer son nom à celui du quartier, qui a fait d'elle une icône, que dis-je, la reine, ou la véritable histoire de Kiki de Montparnasse, muse des années folles. Comment cette jeune provinciale est-elle devenue la reine de Montparnasse? Quels artistes côtoyait-elle? Quel esprit animait Paris dans les années folles? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir une conservatrice en chef et commissaire d'une exposition qui raconte le Paris de la modernité, c'est son titre, au Petit Palais actuellement à Paris forcément. Bonjour Juliette Singer.
Bonjour.
À travers ce Paris de la modernité, c'est un voyage de la belle époque jusqu'aux années folles au cours desquelles Kiki de Montparnasse trouve naturellement sa place que vous offrez aux spectateurs, puisque c'est elle qui nous intéresse particulièrement cet après-midi. Qu'est-ce que Kiki a pour vous de particulièrement moderne et peut-être de plus moderne encore que les autres ?
Alors Kiki, c'est d'abord une personnalité haute en couleur. C'est quelqu'un qui arrive de Bourgogne et qui tout de suite s'impose, enfin pas tout de suite, mais justement va trouver sa place dans ce quartier de Montparnasse. C'est surtout une femme libre qui est à la fois très fleur bleue, puisqu'elle décrit qu'elle est à la fois très sentimentale et voilà, très en recherche d'affection, et en même temps qu'elle a toujours eu le feu entre les jambes, comme elle le raconte de manière croustillante dans ses mémoires. Donc c'est vraiment un esprit libre avant tout.
On va continuer à parler ensemble de Kiki de Montparnasse et de ce Paris de la modernité, Juliette Singer, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
De Kiki de Montparnasse, vous connaissez forcément, peut-être même sans le savoir, le dos. C'est l'un des plus célèbres de l'histoire de la photo. Dans les années 20 à Paris, les années folles battent leur plein. Après les horreurs de la guerre, l'heure est à la fête et à la création. Les artistes du monde entier sont attirés par l'effervescence du quartier de Montparnasse. Parmi eux, un plasticien américain d'origine russe, Emmanuel Radnitsky, arrive dans la capitale en 1921. Comme pseudo d'artiste, il choisit trois lettres de son prénom et trois de son nom pour former Man Ray, qui signifie « l'homme rayon ». Et ça tombe bien, ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est la lumière qu'il travaille minutieusement dans ses photographies. Un jour de 1924, dans son studio parisien, Man Ray immortalise son amante, sa muse, qu'il a rencontrée voilà déjà quelques années à la Rotonde, l'une des grandes brasseries du quartier. La jeune femme a de nombreuses casquettes, parmi lesquelles chanteuse de cabaret. Son nom, Alice Prin, mais tout le monde la connaît mieux sous son nom de Kiki. Kiki de Montparnasse, forcément. Pour lui, Kiki pose, nue de dos, la tête légèrement de profil, avec un turban sur la tête, assise sur un lit, elle laisse apparaître la naissance de ses fesses, ses bras repliés mettent en valeur son dos qui attire sur lui toute la lumière. En demandant à Kiki de poser ainsi, Man Ray n'a rien inventé. Il rend hommage à la baigneuse Valpinson de Jean-Dominique Auguste Ingres, un grand peintre du XIXe siècle, un maître de l'orientalisme. Si sa grande odalisque est considérée comme un chef-d'œuvre, elle fut critiquée pour ses proportions grotesques. Son dos est anormalement long, la demoiselle a au moins trois vertèbres de trop. De son côté, Man Ray se fiche complètement de coller à la réalité. Bien au contraire, l'artiste s'inscrit dans le courant des surréalistes. Comme son ami Marcel Duchamp, qui peint des moustaches à la Joconde, il parodie un classique. Une fois le tirage réalisé, il s'arme d'un crayon à la mine de plomb qu'il trempe dans de l'encre de Chine pour le transformer. De part et d'autre de la colonne vertébrale de son modèle, il dessine les ouïes d'un violon. Cette photographie l'intitule « Le violon d'Ingres », en hommage un peu parodique au peintre et pour faire allusion à sa passion bien connue pour le violon. D'autant que depuis le siècle dernier, et toujours de nos jours d'ailleurs, on utilise l'expression « un violon d'Ingres » pour signer le passe-temps préféré de quelqu'un. Eh bien, Ce que l'on comprend avec cette photographie, c'est que le passe-temps préféré de Man Ray, c'est Kiki. Mais en faisant de sa muse une femme objet, l'artiste ne rend pas hommage à celle dont le dos fait le tour du monde. Car Kiki de Montparnasse était une femme éprise d'indépendance, faite d'amour, mais pas assez d'eau fraîche. Sa vie fut remplie d'excès et de fêtes. Je vous raconte le destin hors du commun d'une reine de la nuit des années folles. Tout commence au début du siècle, et cela n'était pas prévu. Quel comble pour la muse des plus grands artistes de son époque que de n'être pas désirée. Naître, N-A-I-T-R-E. Oui, la future vedette des années folles est arrivée sur Terre par accident. Elle voit le jour loin, très loin des strass et des paillettes. Le 2 octobre 1901, dans une rue de Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, une jeune femme de 18 ans est prise de vertige. C'est une ouvrière typographe sans le sou du nom de Marie Prin. Son ventre, rond comme un ballon, trahit la raison de son malaise. Assise sur un bord de trottoir, Marie accouche. Et voilà comment Alice Prin vient au monde. Son père s'en fiche, il ne la reconnaîtra pas. Pendant que sa mère part à Paris pour trouver du travail, l'enfant est élevé par sa grand-mère. Chère vieille grand-mère, comme elle la nomme dans ses mémoires, qui, à la croire, sera le seul souvenir qu'elle évoque avec émotion, se souvenant des baisers de son visage tout ratatiné, les caresses de ses mains rugueuses, les seules choses douces de son enfance. Alice omet de citer parmi les choses douces qui lui viennent de sa grand-mère les belles culottes qu'elle lui coud avec les pantalons oubliés par sa mère. La petite fille aime déjà les froufrous et les belles dentelles à trous dans lesquelles on fait passer de larges rubans. Elle les aime tant qu'elle veut montrer l'objet de sa fierté. Un jour, alors qu'elle a 8 ou 9 ans, Alice joue dans une représentation du Petit Poucet à la mairie de son village. Elle porte une splendide culotte sous son pantalon et veut que ça se voie. En pleine scène, elle s'arrange pour desserrer sa culotte qui tombe à ses pieds et se révèle au public. Imaginez le tableau. Une fille est dans le rôle d'un ogre qui perd sa culotte sur les planches, c'est surréaliste. Alice attend un triomphe, mais elle entend des hurlements. Les bonnes sœurs qui ont monté la pièce sont livides, elle peut-être un peu rouge, mais l'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, quand sa mère la fait venir à Paris pour qu'elle apprenne le métier de linotypiste, Alice traîne des pieds. Elle quitte la Bourgogne à 12 ans et rejoint l'école communale de la rue de Vaugirard dans la capitale. Pendant un an, elle subit les brimades d'une méchante maîtresse qui lui rase la tête à cause de ses poux. Alice sent les regards de ses camarades sur ses robes déchirées et ses jambes maigres. Et pour couronner le tout, elle ne comprend rien à ce qu'on lui raconte en cours. Calcul, orthographe, géographie, du charabia qui ne l'intéresse pas. À 13 ans et un jour, Alice quitte l'école. Sa place est ailleurs. Pour gagner son pain, elle travaille dans un atelier de brochage. Elle adore enfiler sa tenue. Une blouse en satinette plissée, ficelée à la taille avec un costume. Une splendide paire de bottines à boutons d'un beau jaune avec une tige de drap gris. Si ce premier boulot l'emballe, c'est aussi parce que le sujet la titille. C'est la reliure du Kama Sutra. Il y avait là-dedans de quoi m'échauffer les oreilles et donner à mon entrecuisse des mouvements d'ailes d'oiseau qui n'arrivent pas à s'envoler. Confessera-t-elle sans honte. Pour autant, elle ne s'offrira jamais à n'importe qui. Quand une amie essaye de l'entraîner dans la voie de la galanterie, elle refuse, quitte à dormir dans des sacs de sable dans des hangars vides. Pour survivre, Alice Prin enchaîne les petits boulots. Elle est tour à tour apprentie brocheuse, fleuriste, laveuse de bouteilles chez Félix Potin et même visseuse d'ailes d'avion. À 15 ans, on la retrouve bonne à tout faire chez une boulangère de la place Saint-Georges. La commerçante est une méchante femme, mais l'adolescente est contente de croiser du monde. Un jour, elle rencontre un sculpteur qui travaille dans un atelier, un passe rondin. Il veut la prendre comme modèle. Devant lui, Alice se déshabille et, pour reprendre ses mots, montre toute sa boutique. D'après ses dires, sa mère, qui voulait savoir ce qu'elle trafiquait, l'aurait suivie. Voyant sa fille en tenue d'Ève face à un inconnu, elle serait entrée dans une colère noire et l'aurait traitée de traînée avant de lui interdire de revenir à la maison. Voilà comment Alice Prin se retrouve à 15 ans dans la rue avec les quelques sous durement gagnés par sa première d'une longue série de séances de pause. Avec 5 francs en poche, elle trouve une petite chambre meublée. Un jour, sa voisine de palier lui confie un secret. Elle pose pour des grands peintres. C'est même la maîtresse de Chaim Soutine, un juif russe arrivé il y a peu dans la capitale. Une nuit d'hiver 1917, particulièrement rude, Soutine recueille les deux filles chez lui. C'est lui qui a introduit Alice dans le milieu de Montparnasse. À ce moment-là, l'heure est à la fête. Les hécatombes causées par la Grande Guerre et la grippe espagnole ont traumatisé les hommes et les femmes. On veut s'enivrer pour oublier, danser pour évacuer. Montparnasse est alors le quartier des bistrots et des cabarets. Avec Soutine, Alice Prince se rend à la Rotonde, le mythique café du boulevard du Montparnasse qui existe depuis 1911. Elle n'a droit qu'au bar. Pour pouvoir s'asseoir aux tables de la grande salle avec les dames, il faut porter un chapeau. Et Alice n'a pas de chapeau. Alors, les premières fois, elle s'attable au bar. Mais les toilettes aussi ne sont accessibles qu'aux dames chapeautées. Et un jour, la jeune femme est prise d'une envie pressante. Parce qu'elle ne portait pas de chapeau, Alice Prin raconte dans ses mémoires avoir été contrainte d'uriner un jour dans la salle de la Rotonde. La honte. Bientôt, pour se faire une place parmi les dames, elle trouve un galurin et se fabrique une toilette qui fait chic. Comment ? En collant des échantillons de dentelle sur l'une de ses robes. Quand on a fait l'école de la rue comme elle, on sait se débrouiller. Alice Prin n'a peur de rien. Elle déborde d'énergie et d'envie. On l'entend de loin car elle parle fort avec sa voix gouailleuse. Bien en chair, elle est voluptueuse. Seule la complexe son long nez, mais elle affirme quand même qu'il lui donne de la personnalité. Déguisée en dame, oh, l'habit fait-il le moine, Alice fréquente assidûment la Rotonde et les célébrités de ce quartier huppé qu'elle va faire sien. L'après-guerre marque le début de l'âge d'or de Montparnasse, où se côtoient artistes et poètes, collectionneurs et marchands d'art. On chante, on danse beaucoup, on fait la fête avec trois fois rien. Avec sa meilleure amie, Thérèse Mauss, elle la surnomme 13, elle partage tout. Grâce à son énergie débordante, la drogue et l'alcool n'y sont pour rien, Alice devient la mascotte du quartier. En 1918, Alice se met en ménage avec un peintre juif polonais. Il s'appelle Maurice Mędrzycki. Il a 28 ans, elle en a 17. « Ce n'est pas la richesse, mais quelquefois on mange », racontera-t-elle. Mędrzycki la surnomme affectueusement Aliki, qui devient vite Kiki. Alice adopte un nouveau sobriquet qui devrait faire oublier ses origines paysannes. Tout comme son look, qu'elle peaufine avec soin. Elle ressemble désormais à l'actrice Louise Brooks avec ses cheveux noirs coupés au carré, ses yeux noirs cernés de kohl, ses lèvres rouges carmin et son corps blanc laiteux lui confèrent une indéniable sensualité qui interpelle les artistes. À Paris, Kiki court les ateliers à la demande de peintres de renom comme l'italien Modigliani. Le polonais Kisling lui fait un contrat, ce qui est rarissime pour l'époque. Le japonais Fujita l'immortalise dans son nu couché à la toile de Jouy. En un coup d'œil, on remarque que l'œuvre est fortement inspirée de la grande odalisque d'Ingres et de l'Olympia de Manet. C'est l'un des premiers tableaux de nu d'après modèle vivant de Fujita. Au salon d'automne de 1922, il fait sensation. Il faut dire que Kiki est couchée lassivement sur un lit et qu'elle regarde fixement le spectateur dans les yeux. Si son corps est blanc nacré chez Fujita, il est plus éclatant chez Man Ray, qui l'immortalise en 1924 dans sa plus célèbre photographie, Le violon d'Ingres. Comme je vous le disais en ouverture de mon récit, toute la lumière est captée par ce dos sur lequel il dessine les ouïes d'un violon. Ils ne le savent ni l'un ni l'autre, mais ce cliché va les faire entrer dans l'histoire. Leur histoire à eux dure 8 ans. 8 ans durant lesquels Kiki posera souvent pour son amant. Dans Noir et Blanche, elle a les yeux clos, le visage couché près d'un masque africain. Aux côtés de Man Ray, Kiki fréquente des personnalités, des mouvements dada et surréalistes. Tristan Tzara, Francis Picabia, André Breton, Philippe Soupeau, Louis Aragon, Max Ernst ou encore Paul Éluard. À l'été 1923, une nouvelle boîte de nuit ouvre ses portes à Montparnasse, The Jockey. Très vite, tous les artistes de Paris s'y entassent. Kiki pousse souvent la chansonnette. Écoutons-la.
J'avoue franchement, c'était le bon temps. On est jeune, on est inconscient. Tu te souviens des titines, des culbutes, tout là-haut sur la butte. Tu étais haute comme ça, tu te venais jusqu'aux genoux, que tu étais rosse, mon pauvre chou. Tu me cherchais des raisons, des disputes, tout là-haut sur la butte.
Kiki devient la reine de Montparnasse. De Montparnasse seulement, même si c'est déjà beaucoup. Elle aurait pu voir plus grand. À 22 ans, un journaliste américain l'emmène aux États-Unis, persuadé qu'elle y fera une brillante carrière. Mais à New York, Kiki se lève à midi. Elle joue les stars et arrive en retard au studio, oubliant que là-bas, elle n'est personne. Sa gouaille parisienne ne prend pas. Le voyage est totalement vain. Mais cela ne l'empêche pas d'étoffer sa carrière et de tenter des choses chez elle à Paris. Modèle, Kiki de Montparnasse se fait aussi actrice. En 1924, on peut l'avoir joué son propre rôle dans L'Inhumaine de Marcel Lherbier et La Galerie des Monstres de Jacques Catlin. Modèle et actrice, Kiki devient aussi artiste. Sur les conseils de Jean Cocteau, elle séjourne sur la Côte d'Azur où elle rencontre le futur auteur de Jules et Jim, qui l'encourage à dessiner et à peindre. Depuis quelque temps, elle croque déjà. À la Rotonde, Kiki faisait le portrait des soldats anglais et américains et leur vendait ses dessins pour 10 sous. En mars 1927, elle monte une exposition à la Galerie d'Art au Sacre du Printemps, rue du Cherche-Midi à Paris. Un journaliste décrit son travail ainsi. « Les images de Kiki sont l'œuvre d'un enfant dont les yeux sont saisis par les couleurs vives et la disposition des objets. Qu'elle ait vu beaucoup de peintures modernes est évident, mais sa propre expression n'est pas entravée par la connaissance technique ou l'imitation. La simplicité absolue du résultat reflète une naïveté que l'on ne trouve que rarement aujourd'hui. » Un autre écrit que sa peinture est aussi amusante qu'elle. Pour le Herald Tribune, il s'agit du vernissage le plus réussi de l'année. Ses œuvres se vendent bien. Alors, tout va pour le mieux dans la vie de Kiki ? Bien, pas le moins du monde. Difficile de l'imaginer, mais c'est à l'aube des années 30 que commence le début de la fin de Kiki de Montparnasse. Le destin de Kiki de Montparnasse est un peu lié à celui du monde. La dépression de 1929 annonce la sienne. Les années 30 seront ses années noires, celles de la rançon de la gloire. Avec Man Ray, ils sont séparés. Le photographe a une nouvelle assistante qui sera bientôt sa maîtresse et sa muse, Lee Miller. De son côté, Kiki tombe amoureuse d'un jeune journaliste et caricaturiste, Henri Broca, qui fonde un magazine baptisé Paris Montparnasse. Ça tombe bien, il sort avec la vedette du quartier. Parce qu'elle est une figure incontournable de la vie artistique parisienne, Broca l'encourage à écrire ses mémoires. Kiki de Montparnasse prend la plume pour coucher ses souvenirs sur le papier. Elle n'a que 28 ans, mais une vie déjà riche en rebondissements. En témoignent les premiers chapitres qui paraissent dans le numéro d'avril 1929 de Paris Montparnasse et la suite qui inonde les suivants. Aucun doute sur le fait qu'elle soit l'auteur de ses souvenirs. On reconnaît sa patte. Le journal L'Intransigeant décrit « Elle parle dru, elle écrit de même ». Par petites phrases courtes, incisives, tranchantes et si attendries parfois, elle épingle sur chaque personnalité connue un mot, un qualificatif, une anecdote. Et nous apprenons plus ainsi sur Fujita, Kissling et quelques autres que ne pourraient le faire des volumes sur chacun d'eux. Ernest Hemingway admire tant le texte qu'il écrit la préface à l'édition américaine. « Voici le seul livre pour lequel il me soit jamais arrivé d'écrire une préface », précise-t-il avant d'ajouter « Et que Dieu m'entende, ce sera le dernier. Si vous voulez des livres composés par des ladies, voici un livre écrit par une femme qui n'a jamais à aucun moment été une lady. Pendant 10 ans, elle a été, dans la mesure où notre époque le permet, ce que l'on appelle une reine. C'est très différent, bien sûr, que d'être une lady. » Et les propos de la reine ne sont pas ceux d'une lady. Ils choquent le public américain, peut-être un poil trop puritain. Outre-Atlantique, les souvenirs de Kiki de Montparnasse sont censurés. À Paris, les séances de dédicaces se suivent et se ressemblent. À chaque fois, la queue se forme dès le matin. Devant une librairie du boulevard Raspail, un témoin raconte que les hommes oublient leur demi, leur rendez-vous et leur dignité et se précipitent pour obtenir un autographe et un baiser. Le 30 mai 1929, la revue Paris-Montparnasse organise à Bobineau, sous la présidence du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, un gala de bienfaisance pour la création d'une caisse de secours alimentaire aux artistes. Lors de cette soirée qui s'achève à la Coupole, Kiki est élue officiellement reine de Montparnasse. Quelques jours plus tard, Alexandre Calder l'invite dans son atelier parisien de la rue Sels. Il accueille une équipe de pâté cinéma venue filmer son travail. Face à la caméra, Calder fait le portrait de Kiki en fil de fer. Toute la structure s'articule autour du nez, allongé et terminé en pointe. Elle avait un nez merveilleux qui semblait s'élancer dans l'espace, explique-t-il. Ce nez, Kiki de Montparnasse le poudre un peu trop de l'intérieur. Elle consomme de plus en plus de cocaïne. Son rythme de vie est éreintant. Il faut dire qu'elle doit payer les frais de santé de sa mère et de son amant qui ont sombré au même moment dans la folie. Le jour, elle s'occupe d'eux. La nuit, elle chante et danse dans les boîtes de nuit pour payer les médecins. Le 14 novembre 1930, Kiki débute au concert Mayol dans la revue Le Nu Sonore aux côtés de Tonton de Montmartre. En 1932, elle accepte même un engagement à Berlin. C'est seulement la deuxième fois qu'elle quitte la France. Ce sera la dernière. C'est là-bas qu'elle apprend le décès de sa mère. 3 ans plus tard, Broca la rejoint. Kiki a 33 ans et elle veut vivre. Il faut qu'elle vive. Pour éponger sa peine, elle use et abuse de drogue, d'alcool et de nourriture. Elle atteint les 80 kilos. Heureusement, cela ne l'empêche pas de poser encore. Père Croc, pour lequel je pose en ce moment, me réconforte, raconte-t-elle dans ses souvenirs. Il trouve ma croupe très belle et dit que ça le fait penser à un trois-mâts, toute voile dehors. Kiki fait ensuite le yo-yo sur la balance pour continuer à jouer dans des cabarets. En 1936, elle chante « Nini peau de chien » au Moulin de la Galette. On peut la voir aussi souvent danser au Bœuf sur le Toit, le célèbre cabaret de la rue de Penthièvre. Mais pourquoi n'aurait-elle pas son lieu à elle? C'est ce que lui conseille son nouvel amant, le pianiste et accordéoniste André Larocque. Chez Kiki ouvre ses portes en 1937, rue Vavin. Mais les soirées y sont si folles que le propriétaire des murs y met vite un terme. Bien déterminée à prendre soin de son amante, Larocque tente de la sevrer. Au début, c'est compliqué, mais il finit par y arriver. Et maintenant, je suis heureuse, gaie, je retrouve mes forces, je vis, je respire, je crois en l'avenir. J'ai un amant qui m'aime, que j'aime, nous serons heureux. Tout va bien, écrit celle qui vient de décrocher. Malheureusement, le bonheur va être de courte durée. Les années folles ont débuté après la fin d'une guerre. Elles s'achèvent quand commence une autre. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et l'esprit n'est plus à la fête. Beaucoup d'artistes juifs, à l'instar de Man Ray, quittent le pays pour rejoindre les États-Unis. De son côté, Kiki se réfugie à la campagne. À la libération, elle retrouve un Paris qui n'a rien à voir avec celui qu'elle a connu. Tout est en ruine, à commencer par elle. Son visage trahit sa mauvaise santé qui se détériore encore. André Larocque, qui n'est plus son amant mais son ami, l'aide à subvenir à ses besoins. En tapant ses souvenirs sur une machine à écrire, il la plonge dans une douce nostalgie qui lui offre un peu de bonheur. Sa vie fut mémorable, qui le sait. L'écrivain Frédéric Conner, déniaisé par elle à l'âge de 19 ans, se souvient l'avoir croisée peu de temps avant sa mort. Imaginez la porte du bar s'ouvrir. Kiki entre, elle porte un manteau de phoque très usé et un chapeau d'une taille ridicule avec une voilette qui cache ses yeux. J'avais l'impression qu'une terrible explosion s'était produite, ne laissant rien que d'horribles ruines, décrit Conner. Je scrutais son visage tandis qu'elle titubait vers le bar. Son visage était ravagé par l'âge au point de la rendre méconnaissable. C'était un visage où l'on sentait la mort toute proche, où l'on devinait déjà le cadavre. Un maquillage outrancier ne faisait qu'accentuer l'impression de décomposition qu'il donnait. Peu de temps après, le 23 mars 1953, la star des cabarets parisiens s'éteint à l'âge de 52 ans seulement, morte comme elle est née, en chutant dans la rue. La reine de la nuit a rejoint les étoiles. On raconte que seul le peintre Fujita et sa meilleure amie Thérèse étaient présents à son enterrement. Au cimetière de Montparnasse? Et non, hélas. Kiki fut inhumée au cimetière de Thiers. Mais Montparnasse, elle l'a emporté avec elle, à n'en pas douter.
Europe 1, historiquement vôtre.
Juliette Singer, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Kiki de Montparnasse est illustrée il y a un siècle au cœur du Paris des années 20. Cette année, ses souvenirs sont réédités. Quels souvenirs, justement, il est important de garder de Kiki de Montparnasse? Ses toiles, ses chansons, ses poses, qu'est-ce qui vous paraît le plus représentatif de ce qu'elle était?
Pour moi, c'est avant tout un art de vivre, finalement, cet art de vivre, de se rendre au café. Alors, elle incarne aussi la parisienne que décrit André Varnaud dans Les berceaux de la jeune peinture et qu'on vient voir du monde entier. Finalement, cette parisienne qui est très libre, qui va au café, qui peut être célibataire, qui vit vraiment comme elle l'entend. Et Kiki de Montparnasse, pour moi, c'est vraiment avant tout une personnalité, une vivacité. Elle avait de la répartie, elle se laissait pas faire. C'était vraiment quelqu'un qui a fait de sa vie une œuvre d'art.
Juliette Singer, Kiki de Montparnasse est l'un des nombreux personnages que l'on croise dans l'exposition « Le Paris de la modernité 1905-1925 » actuellement présentée au Petit Palais. Alors d'abord, en quoi Paris est-elle moderne durant le premier quart du XXe siècle?
Alors pour moi, Paris est moderne sous différents aspects. Déjà, c'est une ville cosmopolite. Donc les artistes viennent du monde entier pour s'y retrouver. C'est une ville qui est mixte. Du coup, les femmes, les hommes se mélangent. Les femmes sont vraiment omniprésentes, qu'elles soient comme Kiki modèle, qu'elles soient mécènes, qu'elles soient artistes. Elles sont vraiment partout. Et puis, il y a une appétence forte pour l'innovation. Et donc, ces artistes modernes ne puisent pas leur inspiration dans des modèles du passé, mais ils vont regarder autour d'eux ce monde en transformation et en être des acteurs. Et donc, ils vont observer l'arrivée des avions, l'arrivée des automobiles. Mmh. Et ça va être une source d'inspiration également pour eux.
Mais dans les années 20, Kiki de Montparnasse se fait connaître et Paris s'impose comme une ville-monde. Vous l'avez dit, la capitale française attire de nombreux étrangers, des artistes notamment. Mais pourquoi Paris est-elle si attractive? Comment les étrangers découvrent son ambiance? Comment ils la décrivent, cette ambiance?
Alors souvent, ils la décrivent un petit peu à l'instar de Chagall, qui va décrire Paris comme une ville de lumière et de liberté. Pour eux, il y a cette lumière qui est vraiment cet art moderne qu'ils vont découvrir à la fois dans les musées, dans les salons, dans les galeries, mais aussi cette liberté qu'ils vont respirer à plein poumon. Et souvent, c'est aussi par contraste qu'on voit combien Paris était une ville de liberté, puisque dans les pays d'Europe de l'Est ou en Russie, il y a des pogroms à l'époque. Aux États-Unis, à partir de 1920, il y a la prohibition, il y a aussi des lois de ségrégation. Donc pour tous ces gens qui arrivent à Paris, il y a vraiment cet esprit de liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc dans les années 20, ça va être Paris. Paris est une fête de Hemingway qui décrit bien ce qu'ils ressentent.
On comprend en suivant le parcours de l'exposition qu'au début du XXe siècle, le quartier parisien de Montmartre est un lieu de foisonnement artistique et culturel. Puis on observe une migration progressive des artistes vers le Montparnasse de Kiki. Comment vous expliquez cette transhumance, ce mouvement entre Montmartre et Montparnasse?
Alors Montmartre, effectivement, attirait beaucoup les artistes à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe siècle. Mais c'est vrai que déjà, c'est mal famé, donc il y a quand même des histoires un petit peu louches. Il y a beaucoup d'immeubles en désuétude, il y a beaucoup de trafic. Et puis, il commence à y avoir aussi beaucoup de travaux. Donc, il y a sans arrêt des chantiers, des travaux. Et finalement, la création du métro qui va rejoindre la rive gauche à la rive droite de la Seine en 1910 va accélérer ce mouvement de migration des artistes qui vont quitter Montmartre pour Montparnasse, et notamment dans ce quartier autour du carrefour Vavin. Mmh.
Dans les années 20, Kiki de Montparnasse devient la reine du quartier. Elle reçoit ce surnom qui sonne comme un titre de noblesse, finalement. Elle, qui n'est pas née à Paris, incarne pourtant parfaitement l'esprit du Montparnasse de l'époque.
Oui, complètement. Déjà, elle est connue comme le loup blanc. Tout le monde la connaît. C'est vraiment une figure populaire connue de tous. Et puis surtout, elle a un esprit de franche camaraderie et de solidarité. En fait, tous ces artistes étaient très pauvres et donc, en fait, ils se tenaient les coudes. On s'offrait un café quand on pouvait en offrir un aux copains. On faisait la fête. On riait de bon cœur quand on pouvait. Il y avait vraiment cet esprit de profiter de la vie et puis d'incarner ce quartier qui était absolument dans ces heures chaudes et joyeuses.
Mais justement, si on plonge dans le quartier de Montparnasse de Kiki, quelles sont les adresses les plus courues? Alors, j'ai parlé de la Rotonde, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres adresses.
Oui, alors la Rotonde, effectivement, c'est la figure mythique, notamment par son créateur Libion, qui était très généreux avec les artistes. Il les laissait piquer un peu des trognons de pain quand ils avaient trop faim. Il y a aussi le Dôme, qui était en face. Il y avait aussi le Jockey, qui va ouvrir dans ces années, qui va être un lieu où Kiki va vraiment se prêter à des roues, où elle va s'amuser à faire bisquer un petit peu les touristes, enfin, ça, et à chanter. Et puis, il y a aussi la rue de l'Ambre, où elle va habiter justement avec Man Ray.
Juliette Singer, dans ses souvenirs, republiés donc cette année, Kiki de Montparnasse aborde la sexualité sur un ton tout à fait décomplexé. On note un certain affranchissement des femmes dans les années folles parisiennes. Il y a une forme de liberté accrue.
Oui, alors cette liberté, elle existait déjà à Paris bien avant, par exemple avec Marie Laurencin, même avant la Première Guerre mondiale, qui affiche ses amours libres. Mais c'est vrai que dans les années 20, il y a vraiment une visibilité vraiment de cette liberté de mœurs, avec beaucoup de femmes comme Tamara de Lempicka, qui vont s'afficher dans leur bisexualité. Et puis la figure de la garçonne, cette figure un peu androgyne, aux cheveux coupés, qui est la figure moderne de la femme qui a émergé du temps de la guerre où les femmes ont dû occuper des postes qu'elles n'occupaient pas avant. Et donc voilà, ça va être un moment où, en effet, une grande liberté s'empare de toute cette population et on vit vraiment comme on le souhaite. Mmh.
Kiki évolue aux côtés des dadaïstes et des surréalistes. Qu'est-ce qui caractérise leur art et que l'on découvre dans le parcours de votre exposition ?
Alors, le mouvement Dada est né vraiment en réaction à la guerre et du coup a voulu vraiment faire un peu table rase de tout ce qui existait. Et donc, il y a un aspect très corrosif. On veut vraiment choquer le bourgeois. Et donc, Man Ray va créer un cadeau qui sera en fait un fer à repasser équipé de clous. Donc, c'est un cadeau qui pique un petit peu. Voilà, donc l'esprit de Dada, c'est vraiment ça. Et puis, un esprit d'expérimentation qui va aller dans des formes de création pas forcément très plaisantes au premier abord. Il va y avoir aussi le body art, il va y avoir aussi voilà, le frottage, des tas d'explorations. Puis le surréalisme avec en chef de file André Breton, qui va explorer lui aussi en fait, toutes ces zones un petit peu inconfortables de l'inconscient, du rêve, de ces explorations mentales qui ouvrent d'autres clés de compréhension du monde qui nous entoure.
Kiki de Montparnasse, c'est la muse de ces nombreux artistes, a commencé par son amant Man Ray pendant 8 ans. L'œuvre la plus célèbre sur laquelle elle est représentée et dont on a parlé dans le récit, c'est le violon d'Ingres. On peut actuellement admirer ce cliché au Petit Palais, tout comme d'autres œuvres qui représentent Kiki de Montparnasse. Lesquelles, par exemple, Juliette Singer ?
Alors, Kiki de Montparnasse, dans l'exposition, je présente une très belle sculpture de Gargalo qui représente sa petite tête avec cette coupe que vous avez décrite et cette coupe à la garçonne, très reconnaissable. Et puis son nez en quart de brie, qui en effet a fait sa renommée. Et puis ces deux photographies de Man Ray que vous évoquiez, noire et blanche, où elle est présente avec un masque africain. Il y a aussi ce film de Fernand Léger, Ballet mécanique, dans lequel l'artiste décompose un petit peu tous les mouvements des yeux, de la bouche, du corps de Kiki et la transforme presque un petit peu en poupée mécanique et dont on voit tous les mouvements pris dans un tourbillon sans fin qui s'accélère et qui enivre.
Que sont devenus ces dessins, ces toiles personnelles, ces œuvres ? Ont-elles disparu ?
Oui, alors malheureusement, effectivement, comme c'était un petit peu distribué au fil du vent, il n'y a pas un musée qui posséderait un fonds Kiki de Montparnasse, mais je ne désespère pas qu'un jour on retrouve ses œuvres, parce qu'effectivement, elle était connue pour avoir un bon coup de crayon et pour être une bonne artiste.
Durant les années folles, quel type de réaction suscite cette modernité artistique dont vous parlez, cette liberté accrue, ces innovations techniques ?
Alors si pendant la Belle Époque et même pendant la guerre, il peut y avoir des œuvres qui font vraiment scandale, je pense à Parade, le ballet de Picasso qui va vraiment faire hurler les salles, et bien dans les années 20 finalement le scandale est quelque chose qu'on va rechercher. Un peintre comme Kies van Dongen va vraiment même rechercher dans ses peintures à choquer parce que finalement c'est gage de succès et puis on se dit ben tiens, si dès qu'il y a un scandale finalement c'est que l'artiste est bon et moderne et donc on va chercher cet aspect sulfureux et voilà qui choque un petit peu le grand public.
Pour terminer, Juliette Singer, les belles années de Kiki de Montparnasse se termineront avec les années folles, mais vous avez choisi de terminer l'exposition par l'année 1925. Que se passe-t-il cette année-là ? Pourquoi cette année particulière ?
Alors en 1925, il y a deux événements très importants. Le premier, c'est la grande exposition des arts modernes et industriels qui vont donner leur nom aux arts déco et qui vont vraiment marquer l'essor de ce mouvement à travers le monde. Donc cette exposition 1925 occupe une très grande partie de Paris qui va entre la place de la Concorde, l'esplanade des Invalides et puis le Grand Palais. Et donc des pavillons vont représenter différentes provinces françaises. On a le pavillon aussi de Ruhlmann qui incarne vraiment cette élégance art déco de ces années 25. Et puis la modernité aussi de certains autres architectes tels que tel que Robert Mallet Stevens avec son jardin des arbres cubistes. Voilà. Mais l'année 1925 est aussi celle de l'arrivée de Joséphine Baker à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, avec la Revue Nègre, et qui va faire aussi les grandes heures de cette année 1925.
Merci beaucoup Juliette Saint-Gerre de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Kiki de Montparnasse, muse des années folles. Je rappelle que la formidable et très complète exposition Le Paris de la modernité 1905-1925, dont vous assurez le commissariat avec Annick Lemoine, est présentée jusqu'au 14 avril au Petit Palais à Paris. Bah, il vous reste juste un mois pour y aller. Et aux auditeurs d'Europe 1 qui veulent en savoir plus sur Kiki de Montparnasse, je rappelle ses souvenirs retrouvés réédité aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.